Dominique Maul.
Bonjour.
Merci de nous consacrer du temps ce samedi matin pour parler de votre dernier film, La Nuit du 12, qui a été présenté à Cannes Première cette année, à la salle de Bussy, où j'ai été présente d'ailleurs, où il y avait quelques petits problèmes techniques pour les sous-titrages au début, mais ça a été rétabli. Et après, c'était vraiment un silence religieux pendant tout le film. Un film qui est à la fois une sorte de thriller, polar, une enquête policière, mais aussi une sorte d'immersion dans le monde de la PJ. Et pour ce faire, vous vous êtes inspiré du film, vous avez pris quelques sources en tout cas, dans le film, pardon, de justement Pauline Guénat, 18-3.
Le livre.
Oui, c'est moi qui fais un lapsus. Qu'est-ce que vous avez conservé du livre et qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré dans ce livre ?
J'ai été rendu attentif à ce livre en lisant la quatrième de couverture dans une newsletter de Gallimard, et la quatrième de couverture, c'est un extrait du livre où qui dit à la PJ, on raconte que chaque enquêteur est un jour ou l'autre hanté par une affaire, voilà, qui le marque plus que les autres, par un crime qui le hante. Et voilà, cette idée de l'enquêteur hanté par un crime m'a intéressé, et donc j'étais curieux de lire ce livre, enfin sans me dire forcément que ça deviendrait un film, aussi parce que je trouvais la démarche de Pauline Guénat très intéressante et inhabituelle, c'est-à-dire qu'elle avait passé quand même un an en immersion à la PJ de Versailles, et donc son livre, qui n'est pas un roman, mais un peu le fruit de ses observations, enfin, elle raconte le travail au quotidien des enquêteurs, et voilà, donc j'étais déjà curieux d'avoir une vue comme ça de l'intérieur de ce monde. Voilà, et en lisant le livre, qui retrace beaucoup d'enquêtes qui passent d'un service à l'autre, enfin de la PJ, enfin à la crime, les stupes, voilà, donc on a un aperçu de plein de services, de plein de brigades différentes, et petit à petit il y a des personnages aussi qui émergent, mais ce n'est que à la toute fin du livre, enfin sur les deux ou trois derniers chapitres, qu'elle parle de cette enquête en particulier, donc l'affaire Clara, qui a une enquête qui s'est déclenchée suite au meurtre d'une jeune femme, et la particularité de cette enquête, enfin même si ça arrive quand même relativement souvent, c'est qu'elle n'est pas résolue, et que les enquêteurs ont pas mal de suspects, mais n'arrivent pas à en mettre en examen, hein, enfin ils n'ont pas suffisamment de preuves. Et ce qui m'intéressait, c'est de voir comment justement un de ces enquêteurs, Johan, devient hanté et obsédé par cette affaire, d'autant plus qu'il n'arrive pas à la résoudre, et ce que ça provoque en lui et à ses collègues d'être justement confronté à une enquête qui n'aboutit pas, ce que ça provoque comme frustration, comme colère, enfin comment est-ce qu'il gère ça en fait. Et voilà, donc c'est ça qui m'a intéressé au début, et puis après dans un deuxième temps, enfin quand j'ai commencé à travailler avec mon co-scénariste Gilles Marchand, on s'est vite rendu compte aussi que voilà, enfin comme ça parlait quand même d'un féminicide et de la violence faite aux femmes, que c'était également un fil rouge d'une thématique importante que ça allait être, hein, une thématique importante du film, dans le sens où le milieu de la PJ est un monde quasi exclusivement masculin, enfin vraiment pratiquement que des hommes comme enquêteurs, et qui sont confrontés donc à la violence d'autres hommes faite envers des femmes, et comment, voilà, qu'est-ce que ça leur renvoie eux de leur propre masculinité. Donc voilà, ça c'est un autre thème qu'on avait envie d'explorer à travers ce film.
Alors Dominique Maul, c'est passionnant de vous écouter, mais vous avez anticipé sur plusieurs de mes questions. Je vais essayer de les regrouper. D'une part, en fait, vous avez mis tout de suite en exergue dès le début du film qu'il s'agit justement de ces fameuses situations qui sont irrésolues, presque insolvables en fait pour des enquêteurs. Donc on sait déjà en tant que spectateur qu'il n'y aura pas de coupable à la fin du film, mais vous nous entraînez quand même, et on oublie cette situation, puisqu'à chaque nouveau venu, entre autres les copains, les amants de Clara, on a également un sursaut en disant c'est peut-être lui le coupable. On a oublié ce que vous nous avez dit au début du film, et c'est très judicieux parce que vous nous entraînez dans un suspense qui relève du policier, mais en même temps, cette immersion dont vous parlez, qui relève plus de l'anthropologie. Moi, je pense à Bourdieu qui disait observation participante. Là, on est vraiment en observation participante à la PJ de Grenoble. Donc, c'était le double choix d'orientation de lunettes de lecture que vous avez choisi.
Oui, c'est ça. En fait, enfin, effectivement, comme vous dites, enfin, nous, on a voulu assumer dès le début par un carton le fait que l'affaire ne sera pas résolue. Enfin, c'est vrai que dans le code du film policier ou de l'enquête policière, on démarre par un meurtre et à la fin, on livre au spectateur le meurtrier. Ce n'est pas le cas. Alors, enfin, il y a quand même un coupable. Hein. Vous dites qu'il n'y a pas de coupable, mais il y en a un.
Il y en a forcément un.
Et voilà. Mais et du coup, ça permet aussi le fait de savoir voilà que le but ultime du film, c'est pas de découvrir qui est l'assassin. Ça permet de se concentrer sur d'autres choses, enfin, de regarder ailleurs et notamment voilà sur le travail de ces enquêteurs, sur leur possible désarroi, sur la manière dont ils font face à tout ça. Et donc, enfin, moi, j'ai moi-même aussi passé une semaine, c'est qu'une semaine, c'est pas une année entière comme Pauline Guénin, mais j'ai passé une semaine en immersion à la PJ de Grenoble avant le tournage. Et voilà, donc j'ai pu les voir au travail ce qui ressort déjà du livre de Pauline, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que c'est pas, enfin, c'est, voilà, ils travaillent de façon assez acharnée, méthodique, mais ça n'a rien de spectaculaire. Enfin, c'est pas, et c'est pour ça aussi que le film, enfin, même s'il y a de la tension et du suspense, c'est qu'on aimerait bien savoir, comme les enquêteurs, qui est le coupable. C'est pas un film qui fonctionne comme ça sur du sensationnel ou sur de l'adrénaline, parce qu'en fait, en vérité, c'est pas ça. Enfin, ces hommes passent beaucoup de temps dans la procédure, c'est-à-dire à taper des rapports. Enfin, c'est Marceau, un des personnages, qui dit ça. On combat le mal en écrivant des rapports, et c'est vrai que c'est pas faux. Enfin, il y a toute cette lourdeur-là aussi qui les freine un peu dans leur travail, et voilà, j'avais envie de raconter ça aussi.
Alors Dominique Moll, je rebondis sur vos propos. Vous dites très justement que c'est pas le sensationnel, mais il y a justement une part importante qui est accordée à la fois au psychologique et à l'émotionnel. Vous parlez de Marceau, on voit que des fois il est difficile de faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle.
Oui, c'est vrai que enfin, ça aussi c'est quelque chose que j'ai constaté, que j'ai pu observer, qui ressort du livre de Pauline, c'est que en fait c'est un métier qui est très prenant et qui demande une disponibilité de tout instant, et souvent le groupe dans lequel ils sont, enfin c'est des groupes de 6 à 8 enquêteurs, c'est presque leur première famille, même pas leur seconde famille, et il y en a plein dont le couple a explosé ou qui sont divorcés parce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de temps à consacrer à leur famille, et donc parfois ça se mélange, et c'est vrai que dans le personnage de Marceau, il y a à la fois enfin, il dit lui-même ce métier me rend haineux, et donc il a envie d'arrêter, et plus ses déboires personnels font qu'à un moment donné il va vriller et ne plus suivre la procédure comme ils sont censés le faire.
Et justement, vous avez mentionné en début d'interview votre comparse de longue date avec lequel vous écrivez, co-scénariste Gilles Marchand. Comment vous avez travaillé pour élaborer justement ces personnages? Est-ce qu'ils sont venus au fil des échanges que vous aviez avec Gilles Marchand? Et est-ce que vous aviez déjà l'idée des comédiens lors de l'écriture?
Alors, pour la première première partie de la question, comment, enfin, on s'est beaucoup nourri du livre de Pauline pour les personnages. Enfin, parfois, on a pris des caractéristiques d'enquêteurs qui sont pas forcément sur cette enquête-là, mais il y avait quand même beaucoup de détails qui étaient déjà dans le livre et qui étaient, voilà, qui du coup étaient vrais. Et comme par exemple, pour le personnage de Marceau, le fait qu'il ait voulu, en fait, quand il était jeune, qu'il aurait voulu aimer être prof de français, mais qu'il a pas pu parce que c'était des études trop longues et qu'il fallait qu'il travaille tout de suite et qu'il gagne tout de suite sa vie, et du coup, voilà, il est rentré dans la police, mais qu'il lui reste ce goût pour la langue française et qu'il reprend aussi les autres quand il rédige leur PV, enfin que parfois il récite des poèmes de Verlaine, enfin tout ça c'était des détails qui étaient dans le livre, et puis aussi le personnage de, alors évidemment un personnage comme Marceau il est plus facile à écrire parce que il extériorise ses sentiments et ses émotions et il s'exprime, alors que le personnage de Johan est plus taiseux, on sent qu'il retient beaucoup plus les choses, qu'il se contient, enfin qu'il pourrait possiblement être explosif aussi, mais que justement il se met des garde-fous et de barrières pour ne pas briller comme son collègue. Et voilà, une de ses façons de le faire, c'est de faire des tours de piste sur le vélodrome la nuit pour se défouler ou se décharger de toute cette tension accumulée. Mais ça aussi, par exemple, le vélodrome, c'était un détail qui était dans le livre de Pauline Guénin. Voilà, et pour répondre à la deuxième partie de votre question, non, quand on écrit, on ne pense pas... Enfin, on n'écrit pas pour des comédiens. Après, c'est difficile de s'empêcher de penser à des comédiens, enfin d'y réfléchir en tout cas, mais en tout cas on n'essaye pas de se fixer en disant bah voilà ça sera lui, ça sera lui. C'est vraiment une étape qui intervient après l'écriture du scénario, lors du casting et lors du travail avec les directrices de casting. Et après, voilà, ça peut se faire par des rencontres, par des essais. Enfin, c'est vrai que Pauline Lamers, on a très vite eu envie qu'il interprète Marceau. Et puis, voilà, il était très enthousiaste sur le scénario. Pour le personnage de Johan, on a vu plusieurs comédiens avec qui on a fait des essais. Bastien Bouillon, j'avais déjà travaillé avec lui sur Seules les bêtes, mon film précédent, où il jouait déjà un gendarme, mais plus, enfin c'était un second rôle, mais il était beaucoup moins mis en avant. Et c'est vrai que dans les essais, il était très très convaincant parce qu'on sentait justement le fait que cet homme essaye de se contenir et de ne pas laisser libre cours à ses émotions, mais que il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de sa tête et que du coup toutes ces émotions effleurent quand même sur son visage, mais voilà, de façon beaucoup moins extériorisée que pour le personnage de Marceau.
Et il y a un personnage dont on n'a pas parlé qui est primordial, c'est la montagne, la vallée de la Maurienne.
Oui, c'est vrai qu'j'ai très vite eu envie de situer l'action dans une région montagneuse, et puis j'ai choisi la PJ de Grenoble parce que, enfin, c'est une PJ assez, assez active, parce que bon, malheureusement il y a pas mal de criminalité à Grenoble, enfin notamment liée à la drogue, donc voilà, il y a un pôle de police judiciaire qui est assez actif et dynamique. Mais je voulais pas que le crime ait lieu à Grenoble, dans une grande ville. Enfin, je voulais que ça soit dans une ville, enfin, à taille plus humaine. Et donc, j'ai choisi Saint-Jean-de-Maurienne. Ce qui me plaisait, c'est que c'est une ville, enfin voilà, de montagne, enfin elle est dans une vallée, mais qui a pas le côté pittoresque que peuvent avoir certaines villes de montagne. Enfin, la vallée de la Maurienne, c'est une vallée très industrialisée, assez polluée, donc il y a une grande usine, à la fois au-dessus il y a les stations de ski, il y a des barres d'immeubles, mais il y a aussi des quartiers avec des petits pavillons. Enfin, c'est un mélange comme un espèce de concentré du monde, enfin, à échelle réduite, et c'est ce qui m'a plu. Et l'idée de la montagne, c'est que, enfin, ce que j'aime bien dans la montagne aussi par rapport à ce film, c'est que la montagne a quelque chose d'à la fois très, très beau et majestueux, mais aussi quelque chose qui enferme et qui oppresse et qui menace presque.
Inquiétant.
C'est ce mélange qui me plaisait. Enfin, Grenoble déjà est entouré de montagnes et à Saint-Jean c'est encore plus prononcé parce que la vallée est beaucoup plus encaissée. Et c'est aussi comme si ces montagnes bouchaient l'horizon et bouchaient l'horizon des enquêteurs, enfin, qui justement ont du mal à résoudre cette enquête et elles sont aussi un peu presque une prolongation du vélodrome où Johan fait ses tours de piste et où il tourne en rond et voilà, c'est comme si ces montagnes qui entourent la ville l'empêchaient aussi de s'échapper et d'y voir plus clair dans cette affaire.
Et puis il y a un protagoniste qui ne fait que passer, qui est beaucoup moins imposant au niveau de la stature que la montagne, mais qui contribue à ce suspense, c'est un chat noir.
Pardon, excusez-moi, j'ai pas compris toute la question.
Il y a un protagoniste qui est moins imposant que cette montagne, mais qui contribue à ce suspense, à ce sentiment d'inquiétude, c'est un chat qui passe de temps en temps.
Oui, oui. Le chat noir. En fait, ça vient du fait que, enfin, c'est vrai que dans à la police judiciaire, il y a cette question de qui est le chat noir, enfin, qui porte la poisse, quand il y a une saisine un week-end ou un soir ou pendant les vacances, bref, enfin, qui et du coup, voilà, toujours cette question, voilà, qui est-ce qui porte la poisse, donc qui est-ce qui est le chat noir? C'est vraiment une question qui est très présente à la PJ. Et du coup, on a eu envie un peu de décliner ce thème du chat noir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a plusieurs chats dans le film, enfin, que ce soit au cimetière, que ce soit quand Clara, la victime, part de chez sa copine et croise un chat dans la rue. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est un chat qui n'était pas prévu, qui s'est invité lui-même sur le tournage. Enfin, quand on a tourné ce plan, tout à coup, il était vraiment au milieu de la rue, de manière assez surprenante. Et du coup, enfin, on aime bien intégrer ce genre d'imprévu ou d'accident dans un film parce que ça crée justement des choses un peu inattendues. Et voilà, et du coup, c'est un thème qu'on a un peu développé. Donc je pense qu'il doit y avoir 6 ou 7 chats. Voilà, aussi la photo un peu emblématique de Clara, de la victime, quand elle était plus jeune, elle a un chat dans ses bras. Enfin voilà, il y a toutes ces petites choses-là.
Oui, apparemment, ce chat avait compris l'importance de figurer sur le plan que vous tourniez. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure avec les rapports hommes-femmes, on est ballotté aussi en tant que spectateur au fil des rencontres des anciens copains de Clara. On se remet en question, on remet en question l'enquête et on essaye de suivre d'autres pistes. À l'instar de Johan, qui à un moment donné, quand il rencontre la meilleure amie de Clara, elle lui dit de manière assez sèche, c'est pas parce que Clara avait plein de copains qu'elle a mérité ça. Ça remet en question ses convictions et lui-même, il réalise qu'on ne peut pas tirer des conclusions hâtives.
Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez curieux, c'est que quand il y a une victime, on va disséquer sa vie pour voir si ça mène à des pistes, mais il y a il peut y avoir une tendance aussi au bout d'un moment de la juger et notamment quand c'est une femme et quand elle a eu plusieurs plusieurs copains ou plusieurs plusieurs aventures. On arrive vite à avoir ce réflexe en disant ah bah oui mais vous qu'elle aimait les Bad Boys, enfin, à se dire oui mais bon si elle aimait sortir avec des mecs un peu louches, c'est bon, faut pas qu'elle s'étonne qu'il lui arrive quelque chose. Et en fait c'est enfin quand et c'est vrai qu'on arrive vite à ce genre de réflexe de pensée, alors que c'est complètement absurde. Une jeune femme, enfin, ou une femme a tout à fait le droit d'avoir plusieurs aventures simultanées ou non, sans chercher à se faire tuer. Enfin, et voilà. Et donc le film essaye aussi de déconstruire ce genre de réflexe de pensée. Et c'est vrai que l'amie de la victime, Nani, face à Johan, lui renvoie un peu ça. Et puis quand elle le fait, quand elle lui dit, bah voilà, à force de vouloir que savoir si elle a couché avec un tel, avec un tel, avec un tel, c'est une façon un peu insidieuse d'insinuer qu'elle a un peu cherché. Et on sent que lui, ça le fait réfléchir. Enfin, ça, tout à coup, on sent qu'il commence à se poser des questions. Et c'est, enfin, pour moi, dans le film, enfin, voilà, tout le début d'une trajectoire où cet homme commence à sortir d'un système de pensée dans lequel il était enfermé et où il arrive à se confronter justement à la parole de ces femmes, enfin pas seulement à celle de Nani, mais aussi après la juge d'instruction ou la jeune policière qui rejoint le groupe, à progresser en fait, à évoluer en tout cas, voilà. Et je pense que le fait de commencer à se poser des questions, de se remettre en question, de questionner sa masculinité, c'est déjà un bon début pour que les choses changent.
Oui, effectivement, ça le remet en question. On ne va pas tout déflorer du film, mais effectivement, il arrivera à sortir de son vélodrome, ce qui est aussi une grande évolution sur tous les plans pour lui. Pour revenir au Festival de Cannes, où votre film était présenté en Cannes première cette année, vous êtes habitué à la croisette, vous aviez déjà Harry, un ému qui vous veut du bien en 2000, puis Lemming en 2005. Comment s'est passée cette édition avec La Nuit du 12 ? L'accueil du public était en tout cas très enthousiaste.
Ça s'est très très bien passé. Enfin, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas été à Cannes, puisque la dernière fois c'était avec Lemming, c'était en 2005. Après, enfin, Cannes, c'est un peu une caisse de résonance ou un amplificateur qui peut, enfin, après, ça peut être en bien et en mal, hein. Quand ça se passe mal, ça peut, j'imagine, pas être, ça amplifie aussi un mauvais accueil, mais là, le film a été vraiment très bien accueilli, enfin aussi bien lors de la projection que auparavant il y avait eu aussi une projection pour l'AFCAE, c'est-à-dire pour les exploitants et programmateurs indépendants. Donc il y a beaucoup d'exploitants de salles qui l'ont vu, qui étaient très enthousiastes aussi. La presse jusqu'à présent est quasi unanime aussi. Et enfin évidemment Cannes c'est aussi un marché, donc ça permet aussi de vendre le film dans d'autres pays, enfin dans la Suisse d'ailleurs, enfin la vente s'est fait à Cannes. Voilà, donc enfin je pense qu'on a vraiment fait le plein de façon très très positive.
Pour revenir à l'un de vos personnages, Michel de Harry, un ami qui vous veut du bien, est-ce que vous connaissez l'angoisse de la passe blanche entre les films au moment de recommencer un scénario?
Non, l'angoisse, non, parce que ça me paraît un mot un peu fort, un peu exagéré. Enfin, voilà, enfin, il y a des gens qui ont des vraies angoisses qui sont liées à des vrais problèmes, d'avoir parfois du mal à trouver l'inspiration. Ça me semblerait très exagéré. et indécent d'appeler ça une angoisse. Donc voilà, moi j'ai besoin qu'il y ait, pour m'engager sur l'écriture d'un film, qu'il y ait un déclic, enfin que je sente qu'il y a quelque chose qui éveille ma curiosité et mon envie. Voilà, donc ça s'est passé à la lecture du livre de Pauline Guénard. Parfois, ça met un peu de temps à venir, ce déclic. Donc on est toujours, en tant que réalisateur ou scénariste, comme ça, à l'affût, à la recherche, en train de lire des livres ou des articles de journaux, ou écouter des podcasts, etc. Et puis, voilà, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, un déclic, parfois ça prend un peu plus de temps et parfois ça vient un peu plus rapidement, voilà. Mais en tout cas, je définirais pas ça comme une angoisse.
La nuit du 12, c'est à la montagne, c'est une petite ville industrialisée, comme vous disiez, proche d'une ville de province. Ça aurait pu se passer en Suisse, en fait. C'est un cadre très similaire à la Suisse.
Ah bah oui, ça aurait pu tout à fait se passer en Suisse, sûrement. Je sais pas dans quelle ville, mais certainement. Alors, du coup, je pense au film d'Ursula Meyer, L'enfant.
Oui, c'était remonté, oui. Dans le Valais.
Voilà, que j'aimais beaucoup et où il y avait enfin quelque chose comme ça de très graphique aussi et de très fort entre le fond de vallée et puis la station de ski au-dessus. Voilà, enfin c'est vrai que la montagne elle permet ce genre de choses.
Dominique Moll, on vous souhaite plein de succès pour ce film. Ich bedanke Ihnen vielmals, hein, puisque vous êtes germanophone aussi.
Et oui, oui.
On vous souhaite un franc succès. Merci de nous avoir consacré du temps ce matin.
Merci à vous. Merci beaucoup.